c'est que on a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. Ah, c'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils ne respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant « Oh ben, ils sont un peu paresseux ». Enfin, ça a toujours été un peu ça. Et on a retrouvé le même type de débat quand il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe, où on a qualifié les pays du Sud de pigs. On les a appelés le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. On appelait ça les pigs et on disait qu'ils étaient feignants, qu'ils étaient dans l'informel, qu'ils n'étaient pas comme les Allemands et les Français. Il y avait déjà ce débat existait déjà avec les pays africains. Ils ne travaillent pas, ils sont feignants, ils n'ont pas des bonnes formations, ils sont corrompus. Très bien, c'est ce qu'on disait. Si demain on me donnait les commandes, moi, du Congo, Brazzaville, et qu'on me disait quelle est la formule dans les conditions actuelles pour le sortir du sous-développement et faire en sorte que l'économie décolle, ce serait extrêmement compliqué. Et je vous dirais que je n'ai pas la solution. Parce que c'est un pays...
Jambo à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode, donc dans la suite de ton épisode consacré à l'éducation en Afrique. Bienvenue dans ton manuel audio dédié à la culture, l'histoire, la politique et la géopolitique du grand continent. Bienvenue dans ton podcast, le guide du petit panafricain. Ce podcast sert à valoriser ce que le grand continent a de meilleur. N'oublie pas que lorsque nous parlons de grand continent, nous parlons de l'Afrique et de ses diasporas. Et oui, à eux seuls constituent le continent le plus grand tant géographiquement que démographiquement au monde. C'est pour ça que nous l'appelons le grand continent. C'est Arleno qui te parle, commandant de bord de cette mission. Merci à ceux qui voyagent avec nous depuis le début. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que votre soutien est fortement apprécié. Nous publions notre actualité sur Twitter, Instagram. N'hésitez donc pas à nous suivre afin de participer à la grande dynamique d'éveil des consciences et de promotion du peuple africain et de sa diaspora. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'être toujours avec nous. Je te remercie de nous avoir suivis. Le long de cette année 2023 qui a été intense, qui a été riche en projets, qui a été riche en programmes de notre côté. Hein. Encore une fois, tu le sais ou tu vas le découvrir, je suis membre d'une organisation militante panafricaine et panafricaniste, mais également auteur du guide, en tout cas du podcast du guide du petit panafricain. Je suis donc fortement engagé dans la promotion de l'idéal panafricain. C'est d'ailleurs l'occasion pour laquelle tu me suis en ce moment. C'est donc une année qui s'achève et j'espère qu'elle aura été autant pour toi que pour nous riche, intense, dynamique et créatrice d'opportunités. Je te dis en tout cas à bientôt pour la suite en 2024, certainement. Certainement que le guide du petit panafricain sera relifté, c'est certainement que le guide du petit panafricain t'apportera davantage de contenu, davantage d'analyse et aussi certainement peut-être davantage de partenariats. Quoi qu'il en soit, je te laisse avec la suite de cet épisode et te demande de prendre soin de toi. Rappelle-toi que nous n'avons pas encore atterri. Du coup, j'espère que tu es bien assis et que tu es bien attaché. Nous survolons toujours le Sénégal et nous abordons la thématique, en tout cas la suite de la thématique de l'éducation avec une petite surprise que je te demande d'écouter. En effet, pour pouvoir introduire cette deuxième partie, il était important de mettre en perspective les enjeux économiques qui sous-tendent l'éducation en Afrique. Pourquoi est-ce qu'au niveau économique, on a eu tout un tas de difficultés à l'orée des années 90 ? C'est ce que je te propose d'écouter dans cette suite, pardon, car nous avons sélectionné un extrait, voilà, podcast intitulé « Le petit traité de guerre économique du géostratège Patrice Nsiantse hein, », qui est un podcast que nous recommandons fortement dans le guide du petit panafricain, parce qu'il permet une meilleure compréhension des enjeux géo-économiques et aussi qu'il est un complément indispensable à la suite du podcast du guide du petit panafricain. Je vous laisse donc avec un extrait de cet audio. «
Après l'exposition des faits, parlons des effets, des causes et de leurs conséquences. Pourquoi nous, Africains, qui sommes sur le continent le plus pourvu de toutes les ressources possibles et inimaginables sur Terre, nous sommes les plus dépourvus, comme frappés d'une malédiction, alors que des nations ayant une infime partie de ce que l'Afrique possède sont richissimes, comme le Qatar ou les États arabes unis, tout simplement parce que l'on est dans un jeu appelé diplomatie économique dont personne ne vous parlera et ne vous en dévoilera l'existence. Pourtant, comme toute démarche diplomatique, tout se joue en coulisses, dans les boudoirs feutrés de l'Élysée ou de puissantes banques, sans que jamais le grand public que vous êtes en soit un jour informé. Un peu comme le poker, à la différence que toutes les parties sont truquées et que vous en sortirez toujours perdant, quelle que soit la main que vous aurez. Et si par chance vous arrivez, aussi lorsqu'il y a le premier choc pétrolier, une crise mondiale, des prix du pétrole qui débute en 1973 à la suite du pic de production de pétrole des États-Unis et de l'abandon des accords de Bretton Woods. Il y a pour effet une forte dévalorisation du dollar et donc des cours du pétrole libellés en dollars. Le prix du baril a quadruplé, passant de 2,59 dollars à 11,65 dollars. En vérité, cette crise mondiale a été une mauvaise main de poker pour l'Occident, duquel l'Afrique devait en ressortir complètement gagnante. Tellement gagnante qu'elle va financer les pertes de l'État français grâce à son franc CFA, qui sert de réserve à la France au travers de son trésor public où y est déposé le plus scélérat des impôts coloniaux. La France et l'Occident ont toujours fonctionné de manière féodale et c'est cet état de fait qui n'a jamais été compris par nos élites africaines. Comme tout vassal, nous payons un tribut important à notre seigneur et maître la France, qui se met brutalement à augmenter la ponction annuelle et donc aux états vassaux que nous sommes de réduire drastiquement nos frais de gestion administrative, universitaire et militaire. À chaque fois, c'est l'Afrique qui payera durement l'impact des crises financières sur l'économie française en suivant son agenda de structuration économique quand nous nous restructurons économiquement continuellement. Aussi, ce que vous devez retenir est que ce jeu dans lequel nous sommes s'appelle la guerre économique et que ce jeu s'apparente à un jeu de poker menteur où tous les participants se coalisent contre l'Afrique et les Africains pour s'assurer de nous faire perdre toutes les parties engagées. Car c'est nous qui arrivons sur la table de jeu avec le plus gros gain et le plus grand nombre de jetons. Il s'agit donc à chaque accord et forum économique de mieux nous détrousser.
Tu as bien entendu, il y a une corrélation directe entre la situation catastrophique du système éducatif et tous les enjeux géo-économiques des grandes puissances. En effet, il faut dire que le FMI et la Banque mondiale imposeront injustement, via les accords conclus, un dégraissage de la masse salariale. Et c'est ça le plus gros problème, en tout cas à notre sens, l'un des plus gros problèmes qui fut à cette époque. En effet, selon le rapport de l'UNESCO que je cite, on constate un déficit en personnel à tous les niveaux. Par la suite de la limitation des effectifs, de la masse salariale dans le cadre du déploiement de la politique d'ajustement structurel. Ça veut dire quoi en langage plus simple? Ça veut dire simplement que les programmes d'ajustement structurel ont simplement opéré un dégraissage, c'est-à-dire que quand on a considérablement diminué les effectifs dans les établissements publics, les équipements techniques tels que tableaux, tout ce qu'on peut compter comme équipement technique, on subit une coupe. Donc du coup, l'école qui était censée accueillir, je prends un exemple tout bête, 100 personnes, a commencé à devoir accueillir 120, 150 personnes. Alors que on a moins de professeurs et un équipement technique, en tout cas des équipements techniques moins 10 ans. Voici un peu ce que ça met en perspective. Et donc je pense qu'il est temps qu'on se pose un instant et qu'on respire. Ladies and gentlemen, c'est votre commandant de bord qui vous parle aujourd'hui. J'espère que le vol se déroule bien. J'ai voulu mettre en perspective quelque chose de non moins important, c'est-à-dire que le retard accumulé par les Africains n'est ni plus ni moins qu'une situation dont la cause profonde se trouve ailleurs. Qui a imposé le franc CFA? Qui a imposé les accords de Bretton Woods? Qui a imposé les programmes d'ajustement structurel? qui a donc imposé le décrochage des enseignants, au point où, pour assurer une éducation de qualité, les parents durent débourser une somme, en tout cas des sommes astronomiques. Pour un pays comme le Sénégal, on parle dans les années 90 déjà de plus de 800 000 francs CFA pour inscrire un enfant à l'université privée. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, l'année 90 marquera un cycle de violence dû à la précarisation des étudiants, mais aussi des enseignants. L'État étant étouffé, empêtré dans des accords qu'il n'a pas su négocier, avec une manne financière réduite de moitié pour la plupart, et des hauts fonctionnaires qui se détournent, en tout cas, qui détournent les budgets alloués, c'est donc naturellement que l'environnement éducatif est passé d'un espace maîtrisé entre les années 60, on va dire, jusqu'aux années 80, à une zone où il était incapable, où l'État était incapable d'organiser correctement son système éducatif. Ainsi, si vous avez des installations techniques qui ne font pas rêver, des espaces où les enseignants ont déserté car clochardisés, il faut le dire, qu'attendre d'un tel système? Chers frères et sœurs en panafricanisme, philosophie de notre survie, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de cette réflexion. Attention! Alors, on me dira, comparaison n'est pas raison. Ce que j'entends, nous avons certes fait des mauvais choix, certains sont la résultante de notre inconsistance, mais beaucoup sont pour la plupart la conséquence de notre embastillement dans des réseaux financiers qui ne nous profitent guère. Dire que l'Africain doit son sort à son manque de travail, c'est faire encore une fois preuve d'une inconsistance et d'une mauvaise foi patente. Je le dis pour les donneurs de leçons francophiles atlantistes qui voient l'Afrique comme un échec perpétuel qui n'a pas su se hisser au rang des civilisations avancées. Pour eux, rien de bon ne serait émergé en dehors du continent. Ces peaux noires au masque blanc sont les gravillons qui enrayent la machine de notre émancipation pleine et totale, tant ils véhiculent et distillent le poison d'une civilisation dont il faut se méfier. Prendre pour modèle, en effet, et référence l'Occident, encore aujourd'hui, est la preuve que certains n'ont pas tiré les leçons du passé. Le fameux « il faut tirer ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais » est la preuve qu'ils n'ont guère tiré les leçons du passé. Car le message est important. C'est vrai, mais le messager l'est d'autant plus. Nous ne saurions prendre pour modèle des civilisations qui ont érigé en valeur une hiérarchisation des êtres au point où d'élever la théorie des genres en valeur de civilisation. Une civilisation qui jadis a écrit le code noir, l'a complété puis l'a diffusé. Une civilisation qui concentre en son sein les richesses financières parmi les plus importantes de la planète. Hélas, qui ne sait pas partager tant la misère de plus en plus grande sur la planète. Une civilisation qui ferme les yeux sur des bombardements d'enfants, de femmes et de vieillards. Est-ce un modèle? Est-ce un modèle? Je repose encore la question. Mais fort heureusement qu'il y a encore de l'espoir parmi, parce que l'Africain nouveau a pris conscience qu'il lui faille trouver au cœur des diverses expressions de sa sagesse ancestrale et multimillénaire les valeurs qui bâtiront une société dont il est le centre et non la périphérie. Devons tous nous interroger. J'espère que jusque-là tout va bien. Aujourd'hui, et comme d'habitude, tu voyages en business. Tout est mis en œuvre pour ton confort. J'espère donc que tu apprécies ton vol. Alors abonne-toi, partage, mets-y un pouce et parle-en autour de toi pour vulgariser un récit authentique sur l'Afrique et sa diaspora. Un récit authentique sur le grand continent. Car l'Afrique a laissé à ses enfants un héritage immense pour assurer sa puissance. L'Afrique a fait le choix de revenir sur la grande scène de l'histoire, lieu de brassage des valeurs humaines partagées et des grands défis civilisationnels. Ça se passe à Paris, à Grenoble, à Lyon, en Belgique, au Mali, en Guinée, au Burkina et dans les Antilles. Désormais, le grand continent refuse le mépris généralisé. Et comme le disait mon grand-père, Zo Kwezo, un homme vaut un homme. Je suis Arleno, commandant de bord de cette mission et je m'adresse à toi. Le panafricanisme est la philosophie de notre survie, alors prends soin de toi car nous sommes le monde.